Ça hey, dévalue.
On est en pleine conversation, tout le monde.
Ça brasse.
Ah, non, non,
c'est donc, ma mère, elle m'a pas bien élevé, certains, moi, là.
C'est vraiment fascinant. Laissez-moi vous présenter à notre public. Fred Bastien, YouTuber, animateur.
Bonjour.
Merci d'être là, Fred. Tristan Demers, c'est créateur de bande dessinée. Les Gargouilles, vous connaissez, bien sûr. Les Minimaniacs, animateur, bien sûr, aussi. Il est auteur du livre L'imaginaire en déroute quand nos enfants ne savent plus inventer. Merci beaucoup, Tristan, d'être là. Ça fait très longtemps que je veux t'avoir à l'émission, alors je suis vraiment contente. Jusqu'à Joyal, notre habitué chasseur de tête. Merci, Jess, d'être avec nous.
La straight du groupe ce matin.
Non, non, mais pourquoi? Parce que t'habites à Laval? C'est pour ça que tu dis ça?
Non, mais je sais pas. Il me semble que j'ai un petit décalage ce matin.
Pourquoi?
Avec. Ben, c'est des jeunes.
Tu fais pas de Bixi.
Ouais, c'est mon nouveau moyen de transport. Non, mais on va parler, bien sûr, de oui, on va parler de jeunes et de comment les aider à trouver le job de leur rêve. Mais depuis tout à l'heure, pendant la pause, on parlait de moyens de transport et tout. Tu dis, Fred, que t'as eu chaud, t'as failli coucher à l'île des Sœurs.
Exact. Non, parce que ma blonde habite à l'île des Sœurs. J'ai très bien fait de dormir à Hunsic cette nuit, considérant les circonstances. Mais un bon skateboard, là, ça t'approche du métro. Là. Moi,
c'est vrai.
Honnêtement, c'est très utile parce que ça pèse rien, c'est tout petit, puis tu peux entrer dans le métro ensuite. Puis c'est vraiment plus rapide que la course ou le pas. Puis moi, j'encourage tous les jeunes à commencer le skateboard, mais à être prudent.
Toi, tu mets un casque, par exemple. Hein?
Le plus possible.
Ouais, je vais te faire appeler ma fille parce qu'elle veut pas mettre de casque.
Non, mais ta fille devrait être inspirée par Annie Guglia, une grande skateboarder qui va peut-être nous représenter aux Olympiques éventuellement, qui est une Québécoise qui porte un beau casque de Spider-Man.
Wow.
Elle est super bonne. Je te présenterai si tu veux.
Certainement,
un super sujet.
Avec grand plaisir. Tristan, toi, t'habites aussi à Hunsic?
J'habite à Hunsic. J'ai pas de voiture, j'ai pas de permis.
Pas de permis de conduire.
Je sens pas que j'en ai besoin. Puis de toute façon, moi, je suis un peu princesse. Là. Je mange même pas du homard non décortiqué parce que je veux pas qu'il y ait de la job entre l'assiette puis ma bouche. Fait que je commencerai pas à être pogné sur dans le trafic. Je préfère lire ou écouter ma musique en compagnie d'un chauffeur de taxi, dont je peux déduire le petit reçu en fin de course. Donc, c'est sur mes impôts d'entreprise. Donc, je trouve que c'est la meilleure façon de travailler.
Fait que toi, t'as pas jamais de stress, là. Tu peux créer en paix.
Je crée, je décide. Moi, je me laisse conduire.
Mais c'est bon. Ouais.
C'est de loin la personne qui était la plus relaxe ce matin,
oui,
on dirait, parmi nous.
Oui,
mais
oui,
j'ai pris le métro, ça a super bien été, là.
Ouais.
Mais...
je suis pas zen, moi, là.
Moi, je pense, je vais le dire, toute la journée, je suis venue travailler un Bixi.
Mais c'est une bonne chose. Il y en a qui le font tous les jours.
Oui, exactement.
La blonde le fait, c'est bon pour le cardio aussi.
Oui,
là,
oui,
bon,
oui. Je suis plus en forme que je pensais.
Tu vas bien dormir cette nuit.
J'imagine. mais ça met en forme. Disons que ça te part la journée. C'est comme l'équivalent de 10 cafés. Je voulais vous inviter ce matin pour qu'on parle un peu de tous ces jeunes qui se trouvent à la croisée des chemins, fin secondaire, cégep. Des fois, c'est jusqu'à l'université. Des fois, c'est encore plus long dans la vie où tu dis « j'ai l'impression ». De pas savoir ce que je fais de ma vie en termes professionnels. Il y a beaucoup de jeunes autour de moi, des ados là, qui sont en 3, 4 et 5 secondaires puis qui se disent « je sais pas quoi faire ». Puis Fred, on en parlait la dernière fois que tu es venu, c'est un peu dans la suite de notre conversation qu'on s'est dit « il y a des moyens de trouver la job de ses rêves, il y a moyen ». C'est toi qui disais ça. J'aimerais qu'on poursuive puis qu'on élargisse pour inclure tout le monde parce que secondaire 4, on met beaucoup de pression sur les jeunes de secondaire 4 pour leur dire « ok, là, il faut que tu fasses ton choix de cours ». Puis là, ils sont... On regarde les statistiques, les jeunes de 14, 15, 16 ans font de l'anxiété comme jamais.
La
puis on se demande pourquoi.
La fameuse cotère.
On se demande pourquoi. Toi aussi, t'en as plein dans ta vie, des jeunes qui sont.
En secondaire 3. Je pense qu'il en parlait l'année passée, c'est pas des farces.
Choisir sa voie, c'est tellement stressant. Moi, je me souviens, ça fait pas si longtemps que ça, tu sais. Puis je me souviens, surtout lorsqu'il est venu le moment de choisir mon diplôme à l'université et aussi mon choix de programme au cégep, là, je ne savais pas quoi faire et j'avais l'impression que ma vie dépendait de cette décision qui était un peu aveugle pour moi. Tu sais, j'avais l'impression que je me fermais les yeux puis je lançais un dart sur un bureau. Ah oui, j'aimais l'informatique, j'aimais les jeux vidéo, j'étais un gars qui parlait pas mal, mais à part ça, j'avais des modèles parentaux qui travaillaient dans des emplois qui semblaient aimer, sauf que je me disais, il faut que je trouve ma voie. Puis en fait, je pense que la première étape pour donner un coup de main à ces jeunes-là, c'est de dédramatiser.
Ouais.
C'est de dire, il n'y a pas une bonne réponse. Il y a plein de bonnes alternatives. Puis, à un moment donné, tu vas en choisir une, puis tu vas peut-être te tromper.
Mais le modèle scolaire, nous, on peut leur dire ça tant qu'on veut. Le modèle scolaire les encarcanise dans un concept qui n'est pas ça.
Mais le cégep, pour moi, c'est extraordinaire pour se tromper parce que c'est beaucoup moins cher que l'université. Donc, changer de programme au cégep, entre guillemets, gaspiller une année, probablement, c'est pas une année gaspillée. Faut arracher ce diachon-là immédiatement. Tu vas aller chercher de l'expérience qui va te servir toute ta vie, peu importe si tu te trompes de programme ou non. Mais, rendu là, un an au cégep, c'est rien parce que c'est pas très cher, puis tu seras pas en retard avec le monde à l'université. Moi, ça m'a pris 2 ans et demi faire mon cégep parce que j'ai changé de direction en plein milieu complètement. Puis, j'ai jamais senti que ça m'a arrêté.
Quand t'es sorti du second, qu'est-ce que t'avais fait comme choix de cours en secondaire 4?
Moi, je suis entré au cégep en sciences. Mais malgré le fait que le conseiller en orientation m'a dit, Fred, tout ce que tu me dis, c'est dans les sciences humaines puis la communication. Tout ce que tu me parles, tout ce que tu t'intéresses, ça n'a rien à voir avec les sciences. J'avais quand même un père ingénieur, puis je me disais, bon, tu sais, je suis bon en sciences physiques, donc je vais essayer de rentrer en sciences pures au cégep.
Est-ce que tes parents ensuite... te poussaient là aussi?
Oui, je pense que oui. Tu sais, j'adore mes deux parents, puis je pense que sans vouloir trop appuyer là, sur mes décisions, je pense qu'ils m'influençaient à avoir. Mais je comprends, les parents veulent que ton fils ait une bonne job, puis travaille bien, puis un salaire intéressant, puis il voulait le meilleur pour moi, mais je pense que involontairement, ça met une genre de pression qui te fait oublier les métiers qui te passionnent un peu, comme la communication. En fait, même à l'époque, je pensais même pas que c'était possible d'avoir une job créative ou une job en communication.
Ben, t'es YouTuber.
Exact. Ben, c'est un job qui n'existait pas, premièrement. Donc là, puis c'est aussi ce que je dis aux jeunes. T'sais, j'ai fait quelques conférences dans les écoles secondaires en disant, quand j'étais assis, où est-ce que vous êtes assis présentement, je voulais pas être YouTuber. Qui peut deviner pourquoi? Puis la réponse, parce que ce métier-là n'existait carrément pas. Je peux même pas deviner que ça allait arriver. Ouais. Donc, faut choisir un chemin, faut se faire confiance, puis être prêt à se tromper, parce que le meilleur moyen de savoir si on a choisi la bonne voie, c'est de l'expérimenter, puis de faire, ouais, finalement, ce cours-là, c'est trop pas moi. Moi, je me suis rendu compte que la chimie puis la physique, dans le fond, ce que j'aimais là-dedans, c'était le Discovery Channel. Donc, c'était pas mal plus la télévision que de m'enfermer dans un laboratoire à faire de la science puis de la chimie toute ma vie. Puis, ça a été cette réalisation-là, puis beaucoup, mon employeur, je travaillais dans un café, qui me disait, Fred, tu parles tout le temps, va donc étudier en com, tu sais. Puis, ça a été le déclic qui a fait, ouais, finalement, je pense que je vais essayer ça.
C'est ça que t'as fait, finalement?
J'ai terminé mon deck en sciences humaines, administration.
Avec maths ou pas de maths?
Avec maths, parce que j'étais bon en maths. J'étais pourri en physique puis en chimie parce que j'étais pas vraiment un gars de par cœur. Je travaillais pas assez fort, peu importe. Le point est le suivant. J'ai fini mon deck en administration pour monter ma cotère, pour entrer en communication à l'UQAM. Puis ça aussi, c'est un autre truc super important. Souvent, on se dit, je vais entrer en sciences pures pour regarder toutes les portes ouvertes.
Ouais.
Mauvaise idée, parce que tes notes vont être moins bonnes.
Ouais.
Si t'es dans un programme qui est, entre guillemets, peut-être moins prestigieux, mais que t'as des super notes parce que tu t'es passionné par ça puis t'es bon là-dedans, tu vas rentrer dans des programmes beaucoup plus prestigieux à l'université que si t'es average, si t'es moyen dans un programme très contingenté.
Ça, c'est un très, très, très bon point. Puis je suis pas convaincue que nos jeunes aient vraiment forcément la bonne information. Mm-hmm. Tristan Demers, là-dessus, toi, tu savais dès l'âge de 10 ans que tu voulais dessiner dans la vie.
Ouais. C'est un peu le métier qui m'a choisi parce que j'ai écrit mes BD. J'avais 10 ans, mais j'avais un côté businessman à quelque part. À l'âge de 15 ans, j'avais 2200 abonnés à mon magazine. J'avais un bureau, j'avais 2 employés de l'âge de mes parents que je rémunérais aux 2 semaines avec un petit budget et puis un modèle d'affaires établi. Donc, le défi pour moi comme parent également, mon plus vieux a 25 ans, ma plus jeune a 8 ans. Alors, c'est toute une génération entre 2 enfants. Quelque part, j'en ai 4, famille recomposée, etc. Mais mon défi comme parent, c'est de ne pas être dans l'attente d'un parcours qui est le mien, mais qui est atypique à quelque part.
C'est atypique ton parcours, c'est clair.
Oui, complètement. Fait que je le mets à quelque part de côté. Par contre, je travaille avec plus de 40 000 jeunes par année en milieu scolaire. Puis je leur dis, j'ai pas tant de mérite... Bon, oui, d'avoir construit une business, une entreprise, tout ça, mais j'ai pas tant le mérite d'avoir su tôt que j'étais bon en dessin.
Ouais.
Parce que quand t'es bon en sport ou en art plastique, t'en fais à la garderie puis à la petite école, alors on te valorise là-dessus. Les éducatrices, tes professeurs te le disent. Mais si toi, ta vraie passion, je sais pas, ou ton don à quelque part, c'est de faire de la soudure de moteur d'avion, évidemment qu'on n'aura pas des ateliers de soudure dans un CPE, c'est un peu dangereux. Ça pourrait pas passer dans le programme. Donc, la seule façon de le découvrir, c'est d'explorer, d'avoir cette curiosité qui te permet de faire essai-erreur. Et c'est à ça que l'adolescence sert, à mon avis.
Oui.
Pourquoi pas le cégep? Parce que mon plus vieux a fait 7 ans de cégep. Tu peux te croire, il a changé 3 fois.
7 ans?
C'est épouvantable. Écoute, on n'en pouvait plus.
Il est heureux aujourd'hui.
Ça a coûté cher. mais oui, très, très... Oui, il est allé en ATM, après en art plastique.
ATM,
fini,
c'est...
À Jonquière, une année.
Oui.
Et puis, mais c'était un gars de ville, il s'ennuyait de sa blonde puis il allait se promener chez Zellers l'après-midi en broyant. Donc, finalement, il avait besoin d'une énergie urbaine puis c'était pas un gars de party. Quand tu t'en vas plus loin comme ça, puis que tu tripes pas dans une résidence avec une caisse de bière, pis une coupe de chum,
oui, parce qu'il y en a qui font
trouver
ça long,
exactement.
Ouais. Mais ça fait, tu sais, même ça fait partir du pan. Ça
oui,
fait partie du
ben
parcours de l'adolescence.
On rigolait avec ça, puis bon, c'est un studieux, puis c'est un travaillant, mais bon.
Et il fait quoi aujourd'hui, finalement?
Il est graphiste pour une grosse compagnie de golf. Wow, chef de département, je crois, avec son équipe. Puis il est bien, bien heureux là-dedans. Il était en design graphique, en UNSIC, justement.
Fait qu'il y avait un peu de tes talents, finalement.
Ben, il est dans les arts visuels, mais ouais. Il n'est pas tant dans l'artistique. Il est dans le créatif, mais plus technique, si on veut. Création logo, mise en page et tout ça. Oui, puis c'est formidable de le voir s'épanouir là-dedans.
Ouais. C'est se découvrir aussi. Et c'est non seulement découvert une passion professionnelle, mais aussi, il a découvert que, justement, il était un gars urbain. Il était, comme tu mentionnais, c'est des erreurs à faire pour que tu connaisses mieux ta personnalité. Puis ça t'est utile toute ta vie.
Exactement.
Ouais. Jessica, t'en rencontres des gens qui t'arrivent, toi t'es chasseur de tête, donc ouais. Tu vas chercher les meilleurs pour aller les placer, répondre à certaines demandes d'employeurs. Est-ce que t'en vois là, des jeunes qui t'arrivent, puis qui sont jeunes ou moins jeunes d'ailleurs? Parce que des fois, quand tu as l'impression d'avoir choisi par obligation un métier, tu peux le traîner longtemps, cette frustration de pas être justement au bon endroit.
Moi, ce que je remarque, c'est vrai, puis ce que Fred il disait, puis Tristan, c'est que je m'aperçois beaucoup que quand ils arrivent à leur vers la trentaine, puis ils ont un certain questionnement par rapport à leur carrière, à leur vie professionnelle, ils ont fait beaucoup de changements, justement, dans leur jeune temps. Donc, on voit que les gens essaient d'explorer, puis il y en a qui disent « je me suis carrément trompée ». Parce que quand moi, je regarde quand je les regarde, puis je regarde leur CV, je suis là « expliquez-moi pourquoi vous avez fait ça, puis après vous avez changé ». Puis là, je m'aperçois, c'est soit que mes parents m'ont poussé vers ça, je savais pas quoi faire, mes chums s'en allaient là.
Mais c'est une bonne nouvelle, ça, parce que les gens de la génération précédente, combien se disent en fin de vie « je suis passé à côté de ma vraie passion ». Parce que socialement, il fallait se brancher rapidement puis ne pas décevoir les parents, la famille immédiate. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Je vais m'en donner, branche-toi, là, quand ça fait une couple d'années. Mais c'est intéressant d'explorer. C'est jamais perdu.
Mais non. Ce que je constate, moi, je dirais qu'en général, les gens là sont contents de faire le travail qu'ils font. Parce que j'écoute Fred puis j'écoute Tristan, là, puis finalement, le dénominateur commun, là, c'est que si tu fais quelque chose qui te passionne, puis que tu le fais dans un environnement que tu as des collègues, que tu as du plaisir, puis que tu gagnes ta vie, ben tu fais la job de tes rêves.
Mais
là.
Déjà, là, si tu as pu te trouver une passion, tu as fait plus de la moitié du travail. Mm-hmm. Et le problème, c'est en amont, c'est justement, c'est... Moi, j'ai
quelle
des jeunes
passion?
Qui me disent « comment je la trouve, ma passion? » Puis des jeunes, et puis des jusqu'à 35, j'en connais, là, qui sont plus vieux que toi, Fred, puis qui disent « écoute, je suis pas sûr de l'avoir trouvé encore. » Oui, je fonctionne. Il y en a que je connais qui sont en publicité, il y en a qui sont vendeurs, agents immobiliers, peu importe.
Mais des fois, c'est les chiffres, c'est aider les gens.
Comment tu la trouves, cette passion? Comment savoir ce qui te passionne, Fred?
Ça, c'est le nerf de la guerre, selon moi, puis je pense que ça peut être aussi très paralysant, parce que c'est facile à dire, par exemple, pour un YouTuber de dire « j'ai trouvé ma passion, je fais des vidéos sur YouTube ». Mais c'est pas tout le monde qui aura le luxe ou l'intérêt ou les capacités de faire un métier artistique. Ça, c'est absolument normal.
Ça te prend un début de talent, d'ailleurs. Tu peux pas dessiner gargouille si t'as pas du talent de dessinateur.
Exact. Mais je pense qu'il faut partir de la base que se trouver une passion, ça peut être comme deux choses. Ça peut soit être un métier que t'aimes passionnément ou quelque chose dans lequel t'es bon. Puis crois-moi que si tu trouves quelque chose dans lequel t'es particulièrement talentueux et bon, peu importe ce que c'est, que ce soit la comptabilité, le droit, un paquet de trucs qui peut toucher l'environnement, peu importe. Si tu trouves quelque chose dans lequel tu excelles, tu vas éprouver un plaisir à le faire.
Oui.
Donc, la passion, des fois, c'est mettre la charrue devant les bœufs en disant « trouve quelque chose dans lequel t'es bon, puis ça, tu vas aimer le faire parce que tu vas te trouver bon.
»
Et la passion peut découler de ça aussi. Il y a des gens qui vivent pour travailler, il y a des gens qui travaillent pour vivre. Je travaille énormément, mais j'aime ce que je fais, mais en même temps, ça veut pas dire que tu peux pas avoir un métier un peu plus conventionnel dans lequel t'es bon, donc que tu aimes ensuite.
Mais Tristan,
la passion, c'est un grand mot.
Effectivement.
Pour ça, il faut que tu sois quand même dans une espèce d'abandon.
Voilà.
Et moi, je constate en milieu scolaire, parce que je passe ma vie avec des enfants, et c'est ce dont je parle aussi dans mon nouvel essai, c'est qu'ils sont paralysés par le souci de performance et le regard de l'autre, et ce, dès la petite enfance. Alors, ils vont faire des choix en fonction de la réception de leur cheminement ou de l'idée qu'ils ont, beaucoup plus que... On dirait qu'ils ont plus cet espace-là pour s'écouter eux, puis d'accepter que ça marche pas. Parce que ça veut dire ça aussi, essayer quelque chose, ça veut dire... avoir de fortes chances qu'on fasse, c'est-tu non, finalement, c'était pas mon... Tu sais, bon. Alors là, les enfants doivent sculpter être dans cette espèce d'abandon. Exactement, mais on leur apprend peut-être plus, justement parce qu'ils peuvent plus jouer à tag à cours d'école. D'un coup, qu'on met un plaster, puis que le parent sur Facebook intervient pour dire que c'est ça, finalement, puis on part, puis les assurances, puis ça. Fait que, bouge plus, on t'encadre, explore moins, suis la règle, là le règlement, suis-moi, il est là le cadre. Tu sais, c'est un peu ça, on est là-dedans.
Je suis convaincue que c'est en partie pour ça que les jeunes décrochent de plus en plus.
Parce qu'il y a trop de
parce qu'on les freine.
On sent pas qu'on a cet espace-là, donc...
Parce que moi, je m'aperçois que quand ils viennent en fin de carrière, les gens là, me consultent parce qu'ils veulent revoir un petit peu leur le plan pour leur fin de carrière, ils reviennent à cet état-là, je trouve, de dire hey, « Moi, quand j'étais jeune, là, c'est ça que j'aimais. » On dirait qu'après qu'ils ont gagné leur vie, qu'ils ont placé leurs avoirs, leurs actifs, quand je fais leur plan de carrière, leur fin de carrière, ils me disent « Là, je veux revenir à cette base-là. » Moi, là, j'aimais ça construire des affaires. Je me suis en allée comptable. Puis à sa fin de carrière, ils vont me dire « Je vais faire de la rénovation. Je vais être un homme à tout faire. » Je vois beaucoup des gens qu'ils reviennent à ce qui les passionnait tout jeune.
Ou bien ils cherchent une job qui est payante plutôt que de partir de ce qu'ils aiment.
Puis ils le font en fin de carrière. Tu sais, celui qui dit « Moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu un bateau. » Puis ils partent là, à la fin de carrière, ils s'ajoutent un gros voilier, puis s'en vont dans les Caraïbes, puis ils louent ça à des gens. Puis il faut des choses comme ça en fin de carrière.
Mais pourquoi on ne les fait pas au début? Pourquoi on ne se laisse pas cette...
Parce que
pourquoi on ne suit pas nos pulsions?
Ben, je pense que la question, c'est que
professionnel, là, je pense.
On a besoin de gagner notre vie parce qu'il y a certains besoins. Puis c'est pas toutes les passions qui nous permettent de gagner notre vie.
Mais j'étais supposé de crever de faim, moi.
Mais tu sais,
j'ai choisi de faire de la BD.
De la BD
dans les années 80, où l'espèce d'industrie de la BD ou la structure même des salons du livre et tout ça était beaucoup, n'était pas ce qu'elle est maintenant. Puis je me dis, quand t'es passionné, tu comptes moins tes heures parce que t'as du plaisir dans le travail. Bon, en autant qu'on soit travaillant quelque part,
Puis si t'es le meilleur dans qu'est-ce que tu fais, les gens vont aller te chercher.
Comme la phrase, tu veux qu'elle pousse plus vite, là, tu peux pas tirer dessus, à votre casser dans les mains. Moi, je le dis aux enfants, il faut que t'acceptes que ton résultat vienne plus tard. Ça, c'est difficile pour eux maintenant. On est dans un monde d'instantanéité.
Ça, c'est vrai.
Alors, si t'acceptes que tu mets l'effort, ton résultat, de par son originalité, découlera de cet effort-là et les gens te feront des commentaires qui vont te rendre fier. Et ça peut être autant un bricolage sur lequel tu mets un peu plus de temps qu'une carrière, on se comprend.
On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va voir ce que les auditeurs en pensent. On se demande ce matin un peu comment guider mieux nos jeunes pour qu'ils trouvent, eux, on l'espère, le job de leurs rêves. Et aussi, si vous avez, vous, envie de revenir, comme le disait Jessica, à des envies que vous aviez plus jeunes, puis à vous dire peut-être que c'est le moment de revoir un peu mes objectifs professionnels, puis peut-être de faire enfin ce que j'ai toujours voulu faire comme métier de rêve, mais pourquoi pas, vous me dites 514-790-9850. Ça en ferait partout au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Alors, je suis très contente. Tout le monde est avec nous. Nos lignes sont pleines. On va vous donner la parole. Comment guider mieux nos jeunes pour qu'ils trouvent le job de leur rêve. C'est un peu notre mission ce matin de se questionner là-dessus avec mes invités. On a Christine avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Allez-y, Christine, on vous écoute.
En fait, premièrement, je vous remercie de faire une émission sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez.
C'est vrai.
Nos jeunes, aujourd'hui, on leur demande à 16 ans de faire un choix, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas eu d'expérience de travail, ils n'ont pas eu... De beaucoup d'expérience. Fait que moi, je trouve que c'est dès le début du secondaire qu'on devrait commencer à leur présenter des travails, peut-être faire plus de
petits journées stages,
de stage, peut-être. Oui, des petits stages, que ce soit deux, trois par année, qui connaissent des choses. Il y a des émissions comme, par exemple, Job de bras, que je trouve que c'est génial. Ça leur fait connaître certains métiers plus physiques, disons, mais je trouve que vraiment, il manque d'informations, puis
enlever la pression aussi, tout sur le secondaire 4, ça, je pense qu'on se trompe complètement de faire ça. C'était déjà comme ça, je sais pas si vous en souvenez.
Oui,
moi, je m'en souviens, c'était comme ça aussi. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ouais.
Oui, sauf que nous, on avait l'opportunité d'aller travailler. Des fois, on y allait à 12, 13 ans. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ils commencent à travailler à 16 ans, puis c'est à 16 ans qu'il faut qu'ils fassent un choix.
Ouais.
Mais ils se connaissent pas, je trouve, nos jeunes.
C'est vrai.
Moi, je trouve ça génial, l'idée des stages, puis effectivement, d'aller plus dans le concours. Mais même, on peut aller encore plus loin. Les jeunes qui ont envie d'essayer quelque chose pourraient l'essayer le plus tôt possible. Moi, les gens qui me disent « J'aimerais ça être YouTuber », parfait, commence tout de suite. Moi, mes premières vidéos n'étaient pas bonnes. C'est sûr que les tiennes ne le seront pas non plus. La bonne nouvelle, c'est que tu vas t'améliorer. Tu veux travailler dans l'industrie de la musique? Je suis sûr que tu connais une chanteuse là, dans ton secondaire là, qui chante bien. Essaie donc d'y produire un album pour le fun. Fais ça avec les moyens du bord. Mais quand tu as de l'expérience dans le terrain, puis que ce soit un stage concret ou essayer de faire une démarche entrepreneuriale très jeune, ben, tu te casses les dents, mais t'apprends, puis ça vaut tellement plus que toute formation académique que tu peux aller chercher, de l'essayer pour de vrai par toi-même.
Tu vois, mon fils, depuis deux ans, ça fait deux ou trois ans même qu'il était bénévole au camp de jour d'Ansic, de la ville de Montréal. Donc, l'an prochain, là, il va avoir 16 ans, puis toutes les heures qu'il a fait vont être déduites de son stage de départ, ce qui fait qu'il va être rémunéré, syndiqué en plus, dès la première semaine l'an prochain, parce qu'il va avoir 16 ans à la fin du mois d'août, fait qu'il est bien déçu, pas être capable de se pogner une coupe de paie cette année. Ouais. Mais bon, il est, alors encore là, il est dans le temps, il est dans le il sait bien que bon, il prend de l'expérience et que l'an prochain, tout ça portera fruit. Donc,
ouais.
Il y a de la patience aussi là-dedans, il y a de l'investissement, il y a l'idée d'accepter d'aller chercher de l'expérience au quotidien, c'est important.
Effectivement. Mais là, tu ouvres la porte, ça pourrait être un débat d'une heure, mais sur les stages aussi non rémunérés, parce que je pense qu'il y a des jeunes aussi dont on abuse un peu du temps, qui font des vrais jobs dans des vrais milieux de travail, puis oui, qu'on leur dit, mais là, ça sera bénévole, on ne te paye pas parce que tu es stagiaire.
J'ai vu des bénévoles à Mont-Tremblant l'année passée, voyons donc, un organisme caritatif, c'est une affaire, le club des petits déjeuners ou une personne âgée dans un CHSLD. Mais pas le Mont-Tremblant, s'il vous plaît. Là.
Ouais. On a Anne-Marie qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Anne-Marie.
Bonjour. C'est ma première fois au téléphone en ligne, donc soyez indulgents, s'il
vous
plaît.
Vous faites super bien ça, Anne-Marie. Aucun d'accord. problème, on jase entre nous. Là.
Parfait. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours avant de parler de celui de ma nièce, en faisant ça vite. C'est que moi, ben c'est sûr, là, je viens de prendre ma retraite à 60 ans en février, puis j'ai travaillé. C'est sûr que moi, mes parents avaient pas, ma mère travaillait pas à l'extérieur parce qu'on était les quatre enfants à la maison. Mm-hmm. Mon père était à son compte, donc il y avait pas de sécurité. Fait que moi, c'est sûr que c'est de la sécurité que je cherchais.
Ouais.
Fait que quand je suis allée voir l'orienteur, il s'était OK, t'es bonne, mais j'étais bon, j'ai pas une grande confiance en moi, mais j'étais bonne en tout. Fait que j'aurais pu être directeur d'hôpital qui me disait administrateur de je sais pas trop quoi, en tout cas actuaire. J'étais bonne en français, j'aurais pu être professeur, mais bon, c'est sûr.
Vous avez fait quoi finalement?
Ben, je suis allée, ce que je vais vous raconter, c'est une petite anecdote, c'était la grève des postes, puis la journée où il fallait s'inscrire au cégep, dire dans quoi on s'en allait, j'avais mon enveloppe qui n'était pas cachetée encore, je l'ai cachetée, rendue là-bas où il fallait aller porter notre enveloppe. Parce que j'hésitais encore en technique administrative ou sciences administratives, parce que moi, j'avais les possibilités là à l'université, c'est clair, mais je voyais mes parents qui avaient besoin d'argent, besoin de renfort, donc je me disais, ben non, je vais finir plus tôt, fait que je vais aller en technique, puis au plus tard, au pire, j'irai à l'université les soirs. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans le réseau de la santé, ça n'a pas été évident, même dans les bureaux, c'était loin d'être évident. J'aimais mon travail, je me donnais, je me donnais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai continué plus longtemps que ce que j'aurais pu, là, malgré la pension, parce que pour moi, la pension, c'était pas un but du tout. C'est vraiment d'aimer mon travail puis tout ça. Même à un moment donné, mon corps n'a pas suivi parce que avec la réforme, tout le monde a été vraiment frappé. Fait que là, je tombais en maladie, puis j'ai fait une dépression majeure avec trouble anxieux généralisé. Je suis allée dans un groupe d'entraide, puis là, juste pour dire que c'est jamais trop tard, là, je me suis sentie tellement à ma place, on me disait souvent, ah, tu aurais dû être psychologue, tu as une bonne écoute, tout ça, j'aime mieux entendre parler des autres que de parler. Donc, dans ce groupe d'entraide-là, la première fois que je suis allée là, pas médicamentée, pas rien, là, en pleine crise d'anxiété, là, ben j'ai décidé que c'est là que j'allais faire mon bénévolat, puis c'est là que je me suis dit, OK, je peux prendre ma retraite parce que je sais ce que je vais faire du reste de ma vie, je vais aider les autres et tout, et tout, et tout, dans ce milieu-là. Donc, je me suis dit, ah, c'est dommage que j'ai pas trouvé ça avant. J'aurais pu faire ça, mon métier. Ma profession, ça aurait pu être ça. Mais non, je me dis pas ça. J'ai 60 ans, puis j'ai le reste de ma vie pour faire ça.
Voilà.
Donc, mais ça veut dire que des fois, faire du bénévolat, comme vous le disiez tantôt, peut-être le faire plus jeune, ça peut aider de ce côté-là.
Exactement, c'est vrai. Ben, merci de votre témoignage, Anne-Marie. C'est un beau témoignage, effectivement. Merci. On a Charles rapidement avant la pause. Bonjour, Charles.
Oui, salut. Écoutez, je me sens super interpellé par votre sujet ce matin. Je pense que Fred a mis le doigt dessus. Là. Moi, je travaille en musique. J'ai 26 ans. Puis, je suis le produit d'une école secondaire assez privée là, pour commencer. Puis, on se fait toujours dire, là, tu l'as dit tantôt, Isabelle, tout à l'heure, il faut avoir une job normale. Une job normale, normale. Puis, ce mot-là, c'est tellement vide de sens. Puis, je crois que ce qu'il va falloir, là, c'est vraiment une espèce de réforme qu'on s'assoit et qu'on essaie de comprendre la nouvelle génération. Parce que avoir eu un encadrement, moi, puis m'avoir fait expliquer c'est quoi la réalité du travail de la musique, plus jeune, j'aurais pas été naïf dès le départ. T'sais, on voit, mettons, Fred est YouTuber, on voit juste le côté glamorous là, de tout ça, mais on voit pas les heures et les heures et les heures, puis surtout. Souvent, c'est le manque de financement, le hustle en arrière du travail entrepreneurial. Puis souvent, ben ça, les jeunes aujourd'hui ont aucune idée. On voit juste, les bloggers puis la musique et tout comme quelque chose qui est super glamorous. Mais on est super naïf à cet âge-là, donc on essaie de se lancer dans quelque chose qu'on comprend pas. Fait que j'imagine qu'avoir un meilleur encadrement, puis avoir des gens qui nous parlent puis qui nous expliquent la réalité de c'est quoi vivre de sa passion.
Exact.
C'est pas toujours facile. Je crois que c'est ça que ça va prendre.
Et ça, c'est bien de le dire. Vous avez raison, Charles, de le dire. C'est pas facile. C'est mettre beaucoup d'heures. La semaine dernière, il y a trois blogueuses qui viennent de lancer un magazine édition papier où vraiment, là-dedans, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y en a une qui disait, on les a reçues à l'émission, ça peut prendre 12 heures travailler sur une photo là, pour un post. T'imagines pas ça, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, même dans une passion. La différence, c'est que si t'es passionné, ton 12 heures, il va passer comme ça. Là. Tu vas même pas t'en rendre compte. C'est ça qui est fascinant. Et on me dit qu'il faut aller à la pause. Alors, on y va. Mais on revient tout de suite après. Marie-Hélène nous appelle justement sur notre sujet de ce matin. On se dit comment mieux guider les jeunes pour qu'ils trouvent enfin le job de leur rêve, puis éviter peut-être que des fois, ils passent toute une carrière à se morfondre dans un job. Des fois, tu te morfonds pas. C'est juste... Oui, tu gagnes ta vie, mais t'aspires à autre chose et t'as ton rêve d'ado ou ton rêve de jeunesse que t'as pas pu mettre en place. Alors ce matin, on essaie de dire, ben peut-être qu'on peut aider nos jeunes à éviter de perdre quelques années dans un job qu'ils aiment pas, à essayer de se trouver un peu plus. Et Marie-Hélène, c'est un peu ce que vous faites. Vous expliquez-nous rapidement.
Oui, Isabelle, merci beaucoup de me donner la parole. En fait, suite à toutes les belles conversations que vous avez eues, j'aimerais justement apporter une vision professionnelle dans le débat. En fait, c'est sûr qu'il y a déjà des organismes sur le terrain qui tentent de répondre à ce besoin-là que j'ai entendu. Et j'ai beaucoup aimé, Isabelle, quand vous avez parlé du grand facteur d'anxiété de la troisième et de la quatrième secondaire. Nous, l'outil qu'on a développé dans l'organisation que je dirige depuis maintenant 20 ans, donc moi, je peux dire que j'ai vraiment trouvé ma voie et que je m'épanouis beaucoup dans mon métier. C'est qu'on a mis en place vraiment en amont du choix de carrière, donc dès la troisième secondaire sur Montréal, donc pour nos jeunes de troisième et quatrième secondaire, un programme de stage d'exploration de carrière. Entendez-moi bien, ce sont de très courts stages de quelques jours en période estivale dans tout plein d'organisations sur l'île de Montréal pour permettre justement aux jeunes, non pas de cristalliser un choix de carrière, leur facteur d'anxiété est déjà bien assez haut là-dessus, mais plutôt de leur permettre d'aller dans tout plein d'organisations pour se faire une meilleure tête, avoir déjà peut-être un avis externe au système scolaire puis à la cellule familiale.
Donnez-moi un exemple de stage, Marie-Hélène.
Par exemple, le stage peut se faire. On a vraiment sollicité 18 grands secteurs d'activité sur Montréal. Donc, les adolescents peuvent faire un stage, par exemple, auprès d'un pâtissier dans une petite entreprise familiale. Ils peuvent faire aussi un stage dans un grand cabinet de droit avec 300 employés. Donc, ça permet vraiment à l'ado, en troisième et en quatrième secondaire, de s'approprier vraiment dans une vision orientante. Mais une vision orientante, comme je dis toujours aux parents, non pas pour les obliger dans une voie, ni pour les cristalliser dans quelque chose, mais vraiment pour leur dire, ah, ben tiens, ça, je n'étais pas au fait, parce que la très grande majorité des adolescents, malgré toute la belle information rendue disponible, souvent, on même pas, j'ai entendu un de vos invités, on parlait entre autres de métiers de l'avenir, on même pas encore pris conscience que
ces métiers-là seront... Mais non, je pense qu'il faut leur dire, je ne sais pas si on leur dit assez à l'école. Hier, je faisais une conférence dans une école, justement en secondaire 4, beaucoup d'anxiété chez ces jeunes-là qui essayent de dire, oh mon Dieu, ils ont déjà fait un choix de cours pour l'année prochaine, puis on leur a dit secondaire 4, là, attention vos examens, parce que si vous coulez, là, votre vie est finie. Là. C'est un peu ça là, qu'on leur passe comme message. Écoute, c'est tellement stressant. Et il y a des profs qui sont conscients de ça, puis qui le disent, prenez votre temps, c'est pas grave et tout, mais le message global est tellement plus stressant et plus gros que même si t'as un ou deux profs qui te le disent, le message passe pas. Et il me disait justement, mais où est-ce qu'on peut faire des stages? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir un peu plus d'infos? Donc, Marie-Hélène, dites-nous comment ça s'appelle et est-ce qu'il y a un frais pour ces stages exploratoires de carrière?
En fait, le programme dont je vous parle se nomme Classe Affaires. C'est un programme qui est rendu disponible actuellement dans presque 30 écoles secondaires de Montréal.
Okay.
Et c'est tout simple, en fait, quand les enfants sont inscrits à l'une des écoles secondaires partenaires du projet Classe Affaires, ils ont accès, c'est ça, en service complémentaire d'orientation à l'initiative, au programme. Et c'est une initiative qui est super populaire. Depuis 15 ans, on a 18 000 jeunes Montréalais qui ont eu accès à ces stages-là. Et dans le tiers des cas, ça a complètement complètement modifier leur pensée, leur réflexion carriérologique, parce que le tiers d'entre eux continuent dans une filière de formation qu'ils ont découvert en milieu professionnel.
Merci beaucoup. Ça, merci, donc, Marie-Hélène. Classe à faire, donc, il faut vérifier. Allez sur le site, peut-être votre école y participe, ça pourrait être intéressant pour votre jeune. J'ai Stéphane qui me dit, le décrochage scolaire nous interpelle énormément, surtout celui auprès des jeunes autochtones. Nous avons créé l'organisme OU, Labo Nomade, qui offre des conférences laboratoires sur les métiers en jeux vidéo, en arts numériques. Notre mission, c'est vraiment de démocratiser les outils numériques pour améliorer la santé des jeunes communautés autochtones. Là aussi, de ce côté-là, il y a beaucoup de travail à faire. Fred?
C'est extraordinaire, cette initiative-là, puis merci à ceux qui prêtent main forte à cette cause-là. C'est vrai, il y a des jobs en jeux vidéo. Non, exact, mais ça, c'est un autre point. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais les jeux vidéo. Ouais. C'est pas irréaliste de travailler dans cette industrie-là, surtout pas au Québec. Ouais. Puis aussi, on peut penser à Academos, qui fait un super travail enligner les jeunes, les mettre en contact avec des mentors qui ont vraiment les carrières qui intéressent les jeunes. Ça, c'est génial aussi.
Tristan, va falloir que tu reviennes, Tristan Demers, parce que là, il faut qu'on parle de ton livre.
Oui.
L'imaginaire en déroute. Pourquoi nos enfants ne savent plus inventer. Mm-hmm. Je pense qu'on est un peu responsable de ça.
Pour ça, c'est tellement.
Il faut qu'on fasse juste une discussion là-dessus. Parce que je voulais pas brûler le sujet avec toi,
Isabelle,
ce matin.
Je retiens quand même ce matin de notre discussion que cette période de doute-là, qui est l'équivalent de la page blanche pour un auteur, c'est formidable. Il faut l'embrasser, il faut pas l'esquiver. Ouais. Il faut l'assumer puis se dire ça fait partie du cheminement et c'est le moment formidable où tout devient possible.
Il n'est jamais trop tard pour le faire. Il n'est jamais trop tard le faire dans sa carrière.
Faites-vous la page blanche, on peut se la reprendre et la réécrire.
C'est ça.
C'est vrai. Oui. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour être heureux. Merci beaucoup tous les trois. Tristan, Fred, Jessica, merci d'avoir été là ce matin. On continue cette émission. Ouais. On parlait de marijuana après la pause.